Temps, contre-temps. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Dans la série Mythologie sur le mythe de Thésée et le Minotaure, Canal Académie vous propose de retrouver la musicologue Danielle Piston, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts. Elle évoque le Thésée de Lully. Elle est interrogée par une jeune élève de l'école d'art Coronin à Paris.
Bonjour Danielle Piston.
Bonjour.
Nous allons parler aujourd'hui de Thésée de Lully. Ce qui m'a surprise à propos de cet opéra, c'est qu'il est resté un siècle au répertoire et après il a été complètement oublié, il a disparu.
Oui, c'est le cas de très nombreux ouvrages. Vous savez, le goût artistique, c'est un mouvement pendulaire. D'abord, on aime quelque chose et puis après, on l'oublie. C'est déjà admirable qu'il ait été au répertoire tant de temps. Ça montre, si vous voulez, la force des œuvres de Lully, qui était un modèle. Il ne faut pas oublier que ce livret, donc, qui était un livret de Quinault, il a été repris par exemple par Handel. Et ce thème de Thésée tel que l'avait conçu Quinault, il circule beaucoup. C'est un peu comme la Phèdre de Racine, si vous voulez, qui va inspirer, continuer d'inspirer des artistes pendant très très longtemps. D'abord, c'est un très bel ouvrage, ce Thésée de Lully. On dira, c'est vrai que c'était un ouvrage très réussi et que c'est déjà merveilleux qu'il se soit maintenu autant. Et que notre curiosité contemporaine, effectivement, le fait reprendre aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi, d'une part, parce que l'interprétation des œuvres de Lully s'était déformée avec le temps, si vous voulez. Et puis d'autre part, place aux jeunes.
Oui, justement, à ce propos, on dit que cet opéra a été novateur. Qu'a-t-il apporté de novateur dans les livrets et dans peut-être la forme de l'opéra ?
Chez Lully, les innovations sont importantes. D'une façon générale. C'est-à-dire qu'il faudrait se replacer là dans l'histoire de l'opéra, c'est-à-dire que quand Lully, qui est un Italien, comme vous le savez, reprend l'Académie de musique et commence à écrire ses ouvrages, c'est vrai que ce sont les œuvres de ses compatriotes qui règnent. Ce sont les ouvrages italiens. Or, Lully va imposer en France un style qui vient davantage, si vous voulez, de l'héritage national, de cet héritage hexagonal, plus de la pastorale, les ballets seront importants, les chœurs seront importants. Et c'est un style, si vous voulez, qui doit donc ses particularités à des répertoires préexistants, mais aussi au type de fonctionnement des opéras français, de l'opéra, puisqu'il avait un privilège. L'opéra italien, c'est un opéra qui fonctionne sur le principe de la stagione, de la saison. Autrement dit, vous ne pouvez jamais avoir beaucoup de chœurs et beaucoup de ballets, parce que ça coûte très cher, si vous voulez. Donc déjà, dans le mode d'organisation, entre la tragédie lyrique à la française, telle que la conçoit Lully, on dira telle que l'impose Lully, il y a déjà une innovation fondamentale, et c'est le principe, si vous voulez, de ce privilège opératique français. C'est aussi ce principe qui vient de la cour. Il ne faut pas oublier que l'opéra de ces années-là, c'est l'opéra de cour. Et le prologue, qu'est-ce que c'est ? C'est un hymne au roi soleil. C'est d'ailleurs, si vous avez lu ce livret, c'est « Revenez, amour, revenez ». Il ne faut pas que le roi s'égare trop dans des guerres, il faut que la guerre cesse, il faut que la paix revienne pour que l'amour s'exprime, si vous voulez. Donc, c'est un principe, l'opéra de Lully ne peut pas ne pas être novateur, parce qu'il est complètement différent dans beaucoup de ses principes, si vous voulez. Alors, le langage, évidemment, on a souvent parlé du fameux style pointé, un peu solennel, qui existe dans l'opéra de Lully, mais c'est parce que c'est un opéra d'hommage au suzerain soleil, Et ça fonctionne donc autrement que dans les cours italiennes.
Et de nos jours, est-ce que certaines de ces nouveautés perdurent dans l'opéra ? La cour, bien sûr, n'existe plus, mais sauf peut-être en Angleterre.
Il y a toujours eu, je crois, des artistes plus conservateurs, des artistes novateurs. Dans le domaine de la scène lyrique, ce qui a été été l'innovation, ça a été le théâtre musical dans les années 1960, hein, qui faisait ce théâtre musical dans l'expression française, hein, qui faisait qu'on en avait assez de cet opéra qui était de la déclamation lyrique, qui était un peu loin de la réalité, si vous voulez. Donc, ça a été un genre nouveau en France. Et puis, à la fin des années 80, dans les années 90, on est revenu au principe de l'opéra. Alors aujourd'hui, si vous regardez par exemple un répertoire comme celui de l'Opéra Paris, on verra que le nombre des créations est limité. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher, hein, et que souvent on ne donne pas un nombre trop grand à ces ouvrages nouveaux. Il est certain qu'il y a toujours eu, et j'espère qu'il y aura toujours, des innovations dans l'opéra. Des innovations déjà à notre époque qui viennent du matériau. Il est sûr que l'électronique, que tout ce que l'IRCAM, par exemple, a pu apporter. Donc, c'est automatiquement un nouveau langage. Je pense qu'on a, au contraire, beaucoup fustigé des opéras néoclassiques ou des opéras conservateurs qui n'apportaient rien de nouveau. Mais cela étant, tout est plus subtil, parce que est-ce que c'est vraiment la force innovante d'une œuvre qui fera qu'elle se maintient longtemps au répertoire ? Je crois que, surtout pour un opéra, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, ou alors on parlait de l'opéra et des nouvelles technologies. Rameau a été superposé par des chorégraphes et des vidéographes.
Parce que depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'opéra, c'est beaucoup le règne du metteur en scène. Hein, vous savez, quand déjà on faisait éplucher des cacahuètes à Rodrigue sur scène, et là je parle du théâtre parlé, hein, aussi, c'est tout à fait général, je veux dire. Donc pourquoi ? Ben justement parce qu'il fallait bien innover. Et quand on n'arrivait pas à innover à travers les reprises du répertoire, bien on innovait dans la mise en scène. Donc on arrive à toutes sortes de choses, hein, les ascenseurs qui font descendre les héros wagnériens pour ne pas entrer dans les pires descriptions. Mais pour revenir à Thésée, si vous voulez, justement, ce mythe, il perdure. Alors il est très complexe. Donc je pense que ce qu'il peut y avoir de plus frappant, c'est l'épisode du Minotaure, qui n'est peut-être pas toujours à la gloire de Thésée d'ailleurs, hein, Ariane, ma sœur. Et d'ailleurs dans la musique, on connaît bien le lamento d'Ariane de Monteverdi. Ariane pleure parce que Thésée l'a abandonnée, alors que c'est grâce à Ariane que Thésée a sorti le Minotaure du labyrinthe. Quelle injustice! Et Thésée, donc, intéresse toujours aujourd'hui, la preuve, cet opéra Duc Dufour d'Edale, hein, qui porte justement sur cet architecte, hein, qui avait construit le labyrinthe et qui va permettre donc à son fils Icare de s'en échapper, mais celui-ci ira trop près du soleil. Le personnage de Thésée est toujours là. Il est là chez Dufour comme il est là chez Rameau. Et chez Rameau, dans un de ses premiers opéras, donc Hippolyte et Aricie, Rameau est venu assez tard à l'opéra. Il y a un très très beau rôle pour le personnage de Thésée, hein, parce qu'on ne revient pas aux détails, mais enfin l'histoire d'Hippolyte, c'est peut-être pas non plus tout à la gloire de Thésée.
Pour nous les peintres, chaque mythe a une valeur universelle, mais pour les musiciens, qu'en est-il ?
Est-ce que vous connaissez un art qui aurait une valeur plus universelle que la musique ? Il n'y a pas besoin de traduction en musique.
Sur le mythe de Thésée et le Minotaure, plusieurs émissions vous sont proposées dans notre série Mythologie sur Canal Académie.